7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, merci d'être présents ici ce matin sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour cette émission un peu spéciale, émission spéciale Marine Le Pen. Les résultats du procès sont tombés hier. Marine Le Pen est certes inéligible pendant 15 mois, mais elle peut se présenter à l'élection présidentielle de 2027, ce qu'elle a annoncé hier soir aux 20h de TF1. Elle a annoncé qu'elle serait la candidate de son parti, la candidate du Rassemblement National. Alors aujourd'hui, pour en parler, eh bien, nous recevrons trois personnes, trois experts un petit peu de ce Rassemblement National. Tout d'abord, eh bien, Arnaud Stéphan, qui est déjà avec nous ce matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes donc fondateur de l'agence La Note de Com. Vous avez travaillé sur de nombreuses campagnes présidentielles du Rassemblement National. On aura l'occasion de revenir peut-être aussi justement sur l'historique un petit peu de ces campagnes. Nous recevrons également dans quelques minutes Bruno Gollnisch, ancien député européen de ce même parti, qui lui a été également condamné au cours du même procès. On lui demandera évidemment ce qu'il en a pensé. Et puis enfin, vers 8h, nous recevrons Hubert Coudurier, qui est l'auteur d'un ouvrage sur Marine Le Pen, Le mystère Marine Le Pen, voilà, qui nous livrera aussi son sentiment sur toute cette affaire. Tout de suite, commençons donc cet entretien.
Ligne droite. Le grand entretien.
Arnaud Stéphan, vous êtes avec nous ce matin. Déjà, première question toute simple, comment est-ce que vous analysez ce jugement qui a été rendu par la Cour envers Marine Le Pen? Donc je rappelle, 15 mois d'inéligibilité, 3 ans de prison dont un ferme sous bracelet électronique, 250 000 euros d'amende. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement?
Non, c'est jamais une bonne nouvelle d'ailleurs. Je crois que Marine Le Pen ne l'a pas pris comme une bonne nouvelle de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jugement assez tartuffe. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel explique que certes, elle a pris une décision, mais elle n'empêche pas Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Le juge n'a pas à se mêler ou empêcher la libre expression démocratique. Mais en revanche, elle lui impose le bracelet électronique, comme si la Cour avait suivi ces trois dernières semaines les déclarations de Marine Le Pen, où elle expliquait que de toute façon, si elle avait un bracelet électronique, elle n'irait pas. Alors certes, l'inéligibilité est considérée comme ayant été exécutée, puisque 15 mois, mais il y a cette histoire de bracelet électronique. Alors même si ça aurait pu être redescendu à 6 mois, puisqu'on sait comment ça se passe, il y a des réductions de peine, etc. Mais de toute façon, il y avait cette décision considérée par Marine comme extrêmement vexatoire et que de toute façon elle ne pouvait pas accepter. Et puis dans l'esprit de Marine Le Pen, je ne sais pas pour Bruno Gollnisch, il nous dira peut-être ça tout à l'heure, elle estime de son côté qu'elle n'a pas commis de délit de quelque manière que ce soit, et qu'en plus elle estime qu'elle a été jugée au regard d'un article qui ne correspondrait pas à ce qu'elle considère comme étant la réalité des faits, c'est-à-dire qu'elle dénie au fait le droit qu'on l'accuse de détournement de fonds publics.
Ceci dit, c'est quand même un jugement qui est bien plus favorable à Marine Le Pen que celui qui avait été rendu en première instance, bien sûr.
Mais malheureusement, c'est souvent le cas aujourd'hui en France. On l'a vu avec un certain nombre de patriotes ou de nationaux qui sont condamnés assez durement. Je pense notamment évidemment à notre comment s'appelle-t-il déjà? Son nom vient de m'échapper, mais c'est pas grave, qui est systématiquement condamné de manière extrêmement dure. Damien Rieu, qui est condamné souvent de manière extrêmement dure en première instance, et souvent en cours d'appel, se retrouve avec des peines qui n'ont absolument rien, ou pas de peine du tout d'ailleurs. Ça a souvent été le cas en ce qui le concerne. Donc il faut voir, évidemment, là on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. On aura l'occasion d'en reparler sur la communication, mais mon petit cœur de communicant saigne toujours dans ce genre de situation. Je trouve que les choses vont un peu trop vite. On a un arrêt de la cour d'appel. Il y a une réunion des équipes de Marine Le Pen, ce que je comprends très bien. Il faut se caler. Je pense pas qu'il y avait urgence à faire un 20h dans la foulée.
D'autant que
elle est partie de chez elle depuis peut-être 7h du matin. Toute la journée, il a fait très chaud, paraît-il, dans la cour d'appel. Bruno Gollnisch pourra peut-être nous le dire s'il était présent. Il faisait extrêmement chaud à la cour d'appel de Paris. Derrière, il y a réunion. Derrière, il y a 20h. la saturation en termes de communication, ça peut être intéressant, mais là, c'était pas une communication positive. Mmh. Et c'est extrêmement compliqué de comprendre tous les tenants, les aboutissants. Tout d'un coup, les gens ont entendu parler d'arrêt de la cour d'appel, puis d'aller se pourvoir en cassation, du bracelet électronique, oui, de la candidature. Vous voyez, la candidature, plus tout ça est un peu... quelquefois se bouscule et les gens ont besoin d'avoir une priorisation des informations. Mmh. Hier c'était un peu le mélange, c'était un peu à la foire fouille et je pense que c'est un peu dommage. Ça aurait peut-être mérité d'avoir une séquence sur ce qui s'était passé à la cour d'appel et l'annonce de la candidature de Marine Le Pen, ayant expliqué la veille peut-être qu'elle se voyait en cassation. Là, il y a eu les informations se sont un peu percutées hier. Voilà, c'est ce que je pense.
D'autant que faut ajouter qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Jordan Bardella font une apparition publique à la flèche à 11h, tout à fait.
Dans un des nouveaux territoires du Rassemblement National.
Tout à fait, chez le maire Romain Lemoigne, le jeune maire Romain Lemoigne. Effectivement, donc, encore une fois, ce qui rentre dans votre analyse de saturation, effectivement, où on va encore, quelque part, ils vont encore prendre la parole ce matin. Oui. Pour qu'elle, sans doute pour apparaître ensemble.
Avec un nouveau concept. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que on est passé de la cour d'appel hier à la cassation hier soir, la candidature hier soir, et on est déjà en campagne avec une autre information, c'est-à-dire dans un autre lieu. Tout d'un coup, on se retrouve dans la Sarthe. Je suis assez dubitatif sur cette percussion des informations, des concepts, etc. Je pense qu'il faut prendre un peu de temps, particulièrement quand la situation est aussi importante, confuse parfois, et il faut faire un peu de, comme diraient les gens du Parti Socialiste, un peu de pédagogie pour expliquer sa démarche. Je pense que ça manque un peu de pédagogie, un peu de priorisation des informations. Et j'ai peur que les gens s'y perdent un petit peu et laissent ce sentiment en ce début d'été. Vous savez, c'est important ce début d'été. C'est là où les choses percolent pendant l'été. Les gens vont débrancher un petit peu, mais pas vraiment. Ils vont prendre le temps de lire des journaux.
Ils vont rester sur leur sentiment.
Exactement. Ouais. Et les choses vont percoler pendant l'été. Alors pas évidemment sur le socle, ce qu'on appelle le socle granitique. On a souvent utilisé cette expression ici. C'est cette expression des sondeurs. Le socle granitique du RN, on sait que le bouger sera infinitésimal sur ce socle granitique, on restera autour de 25% d'un socle granitique, ce qui est considérable. Mais c'est plutôt la recherche des électeurs du deuxième tour qui risque d'être un peu plus compliqué.
On aura le temps de parler tout ça avec vous durant cette heure et demie à Arnaud Stéphan. Je me tourne désormais vers vous, Bruno Gollnisch. Vous nous rejoignez, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, je vous entends fort et clair. Je ne sais pas si la réciproque est vraie.
La réciproque l'est tout à fait. Alors, je rappelle évidemment, vous avez été directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002, et puis vous avez été député européen. Vous avez été condamné de votre côté dans cette affaire. Alors, 3 ans de prison avec sursis, 25 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Vous avez écrit hier dans un communiqué vouloir examiner toutes les voies de recours possibles. Est-ce que c'est-à-dire que vous vous considérez toujours, comme Marine Le Pen quelque part, comme innocent dans cette affaire ? Et est-ce que votre objectif, c'est d'être totalement blanchi de ces accusations ?
Oui, totalement innocent, pour plusieurs raisons. La plus simple étant celle-ci, c'est que nous avons agi de façon paisible, publique, non équivoque, avec l'aval de l'administration du Parlement européen de l'époque, dont le responsable du service de l'assistance parlementaire, M. Franck-Antoine Poirel, a été le grand absent de toute cette procédure. Il a laissé M. Cléty jouer le rôle de porte-serviette de l'ex-président allemand Schulz et présenter une version des choses qui ne correspond aucunement à la réalité. Or, pour qu'il y ait détournement de fonds publics, il faut d'abord que les fonds publics en question soient effectivement des fonds publics français. On peut discuter du point de savoir si l'utilisation d'assistants parlementaires européens, ça peut devenir un détournement de fonds publics. C'est une question de droit que la Cour de cassation aura à examiner. Mais il faut surtout qu'il y ait une manœuvre frauduleuse. Il faut bien comprendre d'où part cette affaire, en réalité. Et je crois que c'est important. Je l'avais dit dès le départ à Marine Le Pen, qui peut-être n'en avait pas perçu immédiatement toute la gravité. Je lui avais dit, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre qui est destinée à nous ruiner de réputation, en nous faisant passer précisément pour des escrocs, en quelque sorte. C'est une manœuvre qui est destinée à nous ruiner financièrement, en exigeant des dommages-intérêts prétendus faramineux, alors que pas un centime n'a été détourné. Mais l'accusation ne se fatigue pas. Dès lors qu'un assistant est contesté, dès lors, par exemple, qu'un de mes assistants a travaillé aussi avec un de mes collègues, eh bien, on prend depuis le début de son contrat tous les salaires et charges sociales qui lui ont été versées et on me dit, voilà, M. Gollnisch, la somme que vous avez détournée, sans aucune expertise sur le préjudice. C'est absolument effarant, cette affaire, de bout en bout, si on la regarde bien. De surcroît, ce que nous avons fait, aucun texte ne l'interdisait, les accusations partent précisément de la publication de notre organigramme dans lequel nous publions le rôle que, c'est vrai, nos assistants tiennent aussi à l'intérieur de notre formation politique, mais que je sache, les partis politiques, c'est légal, c'est même constitutionnel, c'est consacré par l'article 4 de la Constitution.
Oui.
Nous sommes dans la situation, en quelque sorte, de joueurs de football à qui le président du club dirait « Vous avez le droit de jouer au foot, mais individuellement, hein, attention, individuellement. » Parce que si vous le faites de façon collective, en l'occurrence si vous travaillez avec vos assistants en poule, par exemple, ce qui était tout à fait normal puisqu'ils étaient chacun spécialisés dans un type d'affaires déterminé, ou si vous travaillez avec votre formation politique, eh bien, à ce moment-là, attention, c'est du détournement de fonds publics.
Cette affaire
est absolument monstrueuse de bout en bout. En réalité, de quoi s'agit-il ? Je termine juste par là, pour qu'on comprenne bien quand même le fond de l'affaire. Parce qu'on dit le Parlement européen a porté plainte, etc. Ce sont des falaises. Demain, le Parlement européen, s'il y a une autre majorité, retirera sa plainte. Ce sont nos ennemis au Parlement européen, pratiquant l'inversion accusatoire. Parce que le président Schulz, en matière d'assistant parlementaire, il a fait bien pire.
Bruno Gollnisch, il y a un point, c'est que Marine Le Pen disait hier soir aux 20h que finalement, François Bayrou avait été accusé du même délit, que Jean-Luc Mélenchon avait été mis en examen pour la même raison. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes le seul parti qui est visé, alors que finalement, à ce titre-là, en fait, presque tous les partis devraient être accusés de la même chose?
Un haut responsable que j'ai reçu récemment du groupe socialiste, qui a été maire adjoint d'une importante ville d'Alsace, mais qui est un homme honnête.
Socialiste honnête, dites-nous en plus.
Et ça arrive, ça peut arriver. Bon, m'a même envoyé un message. Quand il a su que j'étais renvoyé devant le tribunal, il m'a dit, avec des motifs comme cela, il pourrait renvoyer 500 députés en correctionnel à chaque mandature. Je le cite textuellement, bien évidemment. En réalité, voilà ce dont il s'agit. La situation de parlementaire européen vous donne droit à un certain nombre de facilités. Parmi ces facilités, il y a un crédit de formation, il y a l'assistance parlementaire, qui en est de très loin la plus importante, etc. On vous laisse utiliser ces facilités. Vous le faites sous le contrôle vétilleux de l'administration compétente. On ne vous oppose aucune objection. Et des années après, on revient sur l'usage que vous en avez fait en vous disant « Ah ben non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire ». Et dans la mesure où nous considérons que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, dans la mesure, en l'espèce, nous considérons que vos assistants n'ont pas participé à l'édification radieuse la nouvelle cité euromondialiste, qu'ils n'ont pas été des serviteurs dociles de la Commission européenne, eh bien, nous considérons que vous avez détourné l'argent qui a été utilisé pour leur salaire et leur protection sociale. On est en train, je prends les paris, qu'on va essayer de faire le même coup à Jordan Bardella.
Oui.
Je le lui ai dit, et à peine le lui avais-je dit la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, que le surlendemain, toutes les places européennes étaient perquisitionnées, oui, comme par hasard. comme par hasard. Là, il s'agit du crédit de formation où on va lui dire, monsieur Bardella, vous avez utilisé votre crédit de formation pour vous entraîner à l'expression publique, mais vous l'avez fait pas seulement pour parler des questions européennes, alors... détournement de fonds publics. Voilà. Et il est évident que seule la droite nationale, seule les souverainistes d'une façon générale, ceux qui menacent les situations acquises des euromondialistes sont visés de ces façons absolument infâmes. Ce qui nous est appliqué, on ne l'aurait jamais vu à l'Assemblée nationale française, si discréditée que soit cette institution.
Bruno Gollnisch, il nous reste quelques minutes, simplement peut-être une dernière question. Vous êtes retraité de la politique, vous de votre côté, donc théoriquement, par exemple, la question de l'inéligibilité est un petit peu moins importante pour vous, mais en revanche, on en a parlé beaucoup, bien sûr, ces dernières 24 heures, mais vous n'avez pas été le seul à être condamné, il y a également des personnalités comme Nicolas Bay, Julien Odoul, ou même évidemment Marine Le Pen.
Fernand qui Raffinelle, sont... qui est un parfait honnête homme et bien d'autres. Oui, Louis Alliot, quoique échappant à une inéligibilité qui eût entraîné la perte d'un mandat qui a compris de haute lutte et exercé à la satisfaction des habitants de Perpignan.
Mais effectivement, le fait de voir même Marine Le Pen, bien entendu, première d'entre vous condamnée pour cette affaire, finalement, selon vous, quelles seront les conséquences politiques aussi, justement, de cette condamnation et est-ce que, finalement, tout le monde ne va pas être obligé de se pourvoir en cassation pour terminer ce procès, quelque part? Est-ce que vous comptez y retourner, donc, comme Marine Le Pen, comme d'autres, tous ensemble dans 6 mois?
Je compte y retourner, a priori oui, aujourd'hui. Je n'ai pas de grand espoir dans la Cour de cassation, encore que lorsque j'ai été injustement accusé à la suite d'un montage de négationnisme, de je ne sais pas quoi, d'apologie de crimes contre l'humanité, etc., ce montage a été démonté complètement par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un éclatant arrêt de cassation sans renvoi, ce qui est extrêmement rare, c'est-à-dire que la Cour de cassation avait cassé les accusations contre moi et estimé qu'elles étaient tellement irrelevantes, injustes et injustifiées sur le plan légal, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer devant une autre cour d'appel. Mais ceci avait mis fin pour moi à 5 années d'ordalie judiciaire. Je puis espérer une décision semblable, elle serait conforme à la justice et à l'équité, assurément. Mais on n'est jamais sûr de rien. Tout ça est quand même très coûteux, très consommateur de temps, d'énergie, parfois d'angoisse. Pourquoi ne pas dire les choses? Moi, je vis très mal le fait, n'ayant jamais été condamné à quoi que ce soit, même pas pour un délit d'expression, de me voir accoler cette étiquette infamante de détournement de fonds publics. Mais par conséquent, par principe de toute façon, je me pourvoirai en cassation et je dois dire, même j'irai jusqu'à cette juridiction dont nous contestons parfois l'utilité, les décisions qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. On verra, parce qu'il est absolument scandaleux, notamment qu'au cours de l'instruction, alors que je l'ai demandé à multiples reprises, il m'ait été refusé d'être une confrontation avec le responsable de l'assistance parlementaire, dont je donne le nom, M. Franck-Antoine Poirel, qui a été de bout en bout, et pour cause, cachant, je pense, sa honte. Je ne vois pas d'autre explication, et ne voulant pas faire face à ses responsabilités, qui de bout en bout a été le grand absent de toute cette procédure.
Merci beaucoup Bruno Gollnisch pour tous ces éclaircissements. Merci pour votre analyse et puis de nous avoir expliqué comme d'autres, comme Marine Le Pen, vous pourvoirez de votre côté en cassation et puis jusqu'au bout, jusqu'à ce que pour vous, jusqu'à ce que justice soit rendue. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et bien écoutez, on vous souhaite d'ici là un bon été en espérant qu'il ne soit pas trop occupé par ce calendrier judiciaire. Merci beaucoup Bruno Gollnisch.
Merci à vous.
On revient avec vous, Arnaud Stéphan. Vous avez donc écouté cet entretien avec Bruno Gollnisch. Je vous ai vu réagir à quelques moments sur quelques points soulignés justement par Bruno Gollnisch sur la tenue finalement de ce procès. Selon vous, est-ce qu'il y a des éléments qui justement étaient, particulièrement, encore une fois, politiques, particulièrement surprenants dans la manière dont s'est tenu le procès?
Ce que disait Bruno Gollnisch, qui a été vice-président du Rassemblement National, enfin du Front National à l'époque. Je crois qu'il a même été, au Rassemblement National. Beaucoup de choses ont été écartées systématiquement. Le citoyen qui vous parle aujourd'hui, suite à une dénonciation par l'émission Complément d'enquête, je m'étais retrouvé moi-même en kikiné à l'époque par cette histoire d'assistant parlementaire. Et il a fallu de hautes luttes, j'ai même pas été mis en examen ni quoi que ce soit, mais je vais vous raconter l'anecdote, ça prend quelques minutes, vous inquiétez pas. Je suis donc convoqué à Nanterre, au pôle de la police judiciaire, et on commence à m'expliquer, on me montre des documents, et on me montre un mail. Et ce mail, je m'en souviens, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de ce mail. Mmh. Et ça me continue à me turlupiner, etc., etc. Et à un moment donné, ils nous disent, bon, il y a une pause déjeuner, vous avez trois quarts d'heure pour aller vous chercher un sandwich, et vous revenez. Et je cherche, et je retrouve le mail. Le mail avait été entièrement tronqué.
D'accord.
Et donc, je leur montre le mail, je leur dis, non, le mail, c'est ça. Gaga, moumou, oui, mais enfin, dont auquel, voilà, ils essayent d'évacuer la chose. La deuxième chose, je leur dis, mais je comprends pas, est-ce que vous connaissez le 288 boulevard Saint-Germain? Et là, ils changent de sujet. Non, je dis, non, 288 boulevard Saint-Germain. Pour nos auditeurs, le 288 boulevard Saint-Germain, c'était le siège du Parlement européen à Paris. Mmh. Et il y avait une dame charmante, madame Missouni, qui s'occupait des bureaux, et notamment de ce qu'on appelle les bureaux de passage pour les députés européens. Et j'y suis allé un nombre de fois incalculable. J'y ai même organisé des interviews télé, j'ai filmé. Il y a même eu un documentaire qui avait été tourné, où nous avions demandé la grande salle, et ça avait été fait en plus par le réalisateur du Chagrin et la Pitié. Donc il y a pire, on savait exactement de quoi il s'agissait, etc. Eh bien, tous ces registres de présence, tous ces registres où vous badgez, où vous signez, etc., tout ça avait été mis de côté. Il fallait pas que ça existe. Oui. On avait considéré que c'était non, c'était pas important, puisque ça n'allait pas dans le sens de l'accusation de nous avions utilisé, nous n'étions pas vraiment à notre poste, etc. Donc tout ça a été écarté. J'ai jamais été bon. On m'a jamais rendu mes affaires quand même. J'ai eu une perquisition il y a plus de 10 ans. Je n'ai toujours pas récupéré les documents qui avaient été pris chez moi lors d'une perquisition. On remerciera les équipes de compléments d'enquête de m'avoir permis d'expérimenter ça. Mais moi, je n'ai même pas été mis en cause. Rien du tout. J'ai été convoqué. On a vraiment essayé de m'embêter, mais rien n'est advenu en ce qui me concerne. Mais combien de personnes à qui c'est arrivé? Je rappelle quand même que je fais juste une incise là-dessus, mais combien y a-t-il eu de députés européens depuis 2009 différents? Il y en avait énormément. Combien sont renvoyés? Peu, finalement. Si on compare avec le nombre de députés européens du Rassemblement National qu'il y a eu sur ces 15-17 dernières années, puisque c'est ce qui est retenu par la Cour d'appel et le tribunal judiciaire avant, c'est peu, c'est extrêmement peu. Et en plus, comme le disait Bruno Gollnisch, sur des choses extrêmement peu claires, c'est drôle parce qu'il m'a rappelé un nom, j'avais complètement oublié, Monsieur Poirel. En effet, c'était Monsieur Poirel qui était en charge de la gestion de l'enveloppe parlementaire. Et c'est vrai que le fait qu'il était complètement absent de tous les débats, etc., est un vrai souci. Puisque je peux vous affirmer, j'ai pas passé beaucoup de temps au Parlement européen. Donc vous imaginez, j'ai pas passé beaucoup de temps et j'ai déjà été très embêté. Bon, c'est pas grave. J'ai passé peu de temps au Parlement européen, mais systématiquement, pour le moindre truc, vous êtes obligé de lever le doigt. Vous voulez un compte Wi-Fi, il faut lever le doigt, il faut aller voir, il faut justifier tout ce que vous avez fait en permanence, ce qui est quand même un peu embêtant quand vous êtes quelqu'un qui fait de la politique. C'est très difficile d'être sous la surveillance d'une administration alors que vous êtes un acteur politique.
Alors justement, l'accusation principale de Bruno Gollnisch dans toute cette affaire, c'est quand même dire que, évidemment, c'est un procès politique. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, devrait être porté en étendard par le Rassemblement National, dire et maintenir, nous sommes victimes d'un procès politique?
Mais ils l'ont déjà fait, en fait. Je veux dire, c'est la posture du Rassemblement National et de Marine Le Pen depuis le début. On peut faire des efforts, pratiquer le Hatha Yoga de manière quotidienne, il n'en demeure pas moins qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 11 ans de procédure, vous pouvez quand même vous poser des questions sur un certain nombre de choses. Quand vos arguments sont systématiquement balayés, vous avez entendu Bruno Gollnisch, dont on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le droit, il est professeur agrégé, il y a quand même quelques difficultés. Et encore une fois, le fait de vouloir tout mélanger, comme ça a été le cas hier de la part de personnalités politiques, et essayant d'expliquer que le détournement de fonds publics, c'est comme s'ils avaient braqué une banque, non, c'est d'utiliser... D'ailleurs, l'enrichissement personnel n'a pas été retenu. Et puis surtout, on est dans un flou complet qu'ils ont laissé pendant très longtemps. Monsieur Schulz, qui était membre du Parti Socialiste, qui est à l'origine de cette dénonciation, puis du procès des assistants parlementaires, a lui-même été condamné pour l'utilisation de son enveloppe parlementaire, etc. Je veux dire, il faut quand même se souvenir de l'arroseur arrosé, et que de la part du Parti Socialiste, et même j'ai entendu hier... des gens de droite expliquer quand même c'était bien fait pour Marine Le Pen, on sent un petit peu de joie mauvaise. Ces gens qui pendant 25 ans ont été absolument condamnés pour tout, avec des premiers ministres condamnés, un président de la République condamné, je veux dire, il ne faut pas oublier que Jacques Chirac a été condamné.
Nicolas Sarkozy
est même allé, a fait un tour au tourniquet. Je veux dire, c'est pas rien.
Oui.
Vous voyez, je veux dire, c'est pas rien. Et on sent quand même cette espèce de soulagement de la part de tous ces partis qui disaient « Ah, vous voyez, les Le Pen, ils disaient tête haute, mais en vérité, eux-mêmes étaient... Enfin, c'est leur moment. Ils peuvent se venger de ces 30 dernières années où ils ont été condamnés systématiquement, que ça soit sur les bureaux d'études, que ça soit sur tout, tout. » Vraiment. Oui, oui, oui. Se souvient-on de M. Cahuzac quand même? On fait comme si on avait complètement oublié. Non. Je n'ai jamais eu de compte rendu. Enfin, sérieusement. Et que toutes ces lois de pureté qu'on nous demande aujourd'hui, où il faut arriver tels les bourgeois de Calais devant des commissions ad hoc pour montrer que on a acheté un téléphone à sa grand-mère, mais que c'était bien avec des sous qu'on avait gagnés avant de faire de la politique et que machin, etc., etc. Toutes ces règles de transparence, cette espèce de volonté totale de pureté, tout ça est né de la multiplication des affaires, des partis en place qui aujourd'hui disent et expliquent que Marine Le Pen est une criminelle. C'est quand même le terme qui a été utilisé et on sent quand même les éléments de langage. Ce qui est marrant, c'est que ça aille du Parti Socialiste à la droite molle, c'est quand même les éléments de langage qui sont utilisés. C'est quand même prodigieux.
Ouais. On va revenir justement sur toutes ces questions, mais avant cela, accueillons bien sûr Hubert Coudurier. Hubert Coudurier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de l'information du Télégramme et auteur donc du livre Le Mystère Marine Le Pen aux éditions Plomb, qui a été publié il y a quelques mois désormais.
Deux mois,
voilà.
Je suis très heureux parce que là, il est relancé.
Ah bah voilà,
exactement. Quelle campagne de promo.
Exactement, c'est vraiment le calendrier bien choisi. Non mais effectivement, ce dont on discutait évidemment, c'était donc de tout ce procès Marine Le Pen. Quelque chose qui m'a étonné, c'est quelque part la réaction de Marine Le Pen. On l'avait vu très affectée par le jugement en première instance. Hier, on la voit sortir du procès, oui, plutôt rayonnante, plutôt souriante, un peu gênée lors de l'entretien avec Gilles Boulot aux 20h de TF1. Mais enfin, psychologiquement, on la sentait quand même assez libérée.
Oui, absolument. Écoutez... Elle revient d'entre les morts, hein. Tout le monde l'avait enterrée, tout le monde préparait l'avènement de Jordan Bardella. Elle a repris la main. La rivière va reprendre son lit. Alors ensuite, les choses ne sont pas si simples que ça, donc vous en parliez. Il faut voir si elle a bien fait de faire un pourvoi en cassation. Elle aurait très bien pu, finalement, prendre sa perte, si je puis dire, accepter de porter un bracelet électronique pendant quelques mois, et puis on sait très bien qu'au bout de 6 mois, avant même la fin de l'année, elle aurait pu s'en débarrasser et terminer tranquillement la fin de campagne. Là, elle a pris un risque. Encore que je fais confiance aux avocats et aux manœuvres dilatoires pour que ça dure jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, ce sera quand même très difficile de lui remettre un bracelet électronique un mois avant le scrutin. Donc globalement, on l'a dit, mais je le répète, le phénix renaît de ses cendres. Elle a quand même eu à la fois des épreuves dans sa vie, mais aussi de la baraka. Mmh. Et puis bon, et les juges ont choisi de... Je ne sais pas si c'est machiavélique, mais enfin, ils ont botté en touche finalement. Ils ont dit, alors vous voulez absolument vous présenter, allez-y, mais reconnaissez votre faute. Mmh. Et elle ne veut pas la reconnaître. De ce point de vue-là, j'ai écouté ce que vous disiez, M. Stéphane, je suis assez d'accord. Ça a commencé avec Pierre Bérégovoy, c'était, je ne sais plus en quelle année, enfin, quand il était Premier ministre, avant son suicide, il a sorti une liste à l'Assemblée en disant, voilà, je sais où sont les responsables. Et on s'est enfermé dans un piège qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre d'armes, d'avions, tout est effectivement scanné, on est rentré dans une logique de purification qui se retourne contre tout le monde. Mais ça n'empêche que on peut discuter sur les fonds européens qui ont été détournés. Je pense qu'à l'époque, d'abord, c'était un parti clairement anti-européen. Oui. Deuxièmement, c'était le foutoir. Donc, ils ne savaient pas très bien exactement s'organiser. Maintenant, il y a quand même eu, en tout cas pour le majordome de Jean-Marie Le Pen, quelques dérapages. Il va falloir qu'elle s'en explique. Elle ne pourra pas uniquement dire « non, je ne suis pas coupable ». Il faut, de toute façon, je pense que pour elle, maintenant, c'est sa dernière épreuve. Et c'est, ça va être l'occasion pour elle d'un grand exercice où elle va devoir, dans tous les domaines, s'expliquer et apparaître dans sa dimension globale en essayant d'être le plus crédible possible.
Arnaud Stéphane, il y a un point, c'est qu'effectivement, c'est un peu ce que disait Hubert Coulier, Marine Le Pen est quand même passée dans un trou de souris. On va dire, entre l'affaire du bracelet électronique et l'inéligibilité et le pourvoi en cassation, enfin, elle trouve quand même une ligne qui est assez fine. Venons au cœur du sujet, elle se présente donc en tant que candidate pour l'élection présidentielle de 2027. Justement, dans cette situation qui est très ambiguë, très compliquée, pourquoi finalement elle a décidé de... pas prendre une situation qui aurait pu être plus claire, plus franche et plus plus lisible, en tout cas pour les Français, qui aurait été de laisser sa place à Jordan Bardella. Pourquoi est-ce que elle a voulu absolument, selon vous, passer dans ce trou de souris pour se présenter tout de même?
On a un biographe de Marine Le Pen en face de nous. Moi, j'ai connu un peu la famille Le Pen, ayant travaillé pour les trois qu'on fait de la politique. Il se trouve que pour comprendre ce qui s'est passé hier, faut comprendre la conformation d'esprit de cette famille celte un peu curieuse qui est capable de faire des choses inattendues,
hors normes,
quelquefois un peu inattendues. Jean-Marie Le Pen avait, et on le sait, et d'ailleurs ça lui a coûté aussi politiquement très cher, il était, quand il avait décidé de quelque chose, pour essayer de lui faire revenir en arrière, c'est pas un semi-remor qu'il fallait, c'était deux. C'est extrêmement compliqué. Marion Maréchal, c'est un peu la même chose également, quitte à s'enferrer quelquefois dans des voies sans issue, et on voit qu'il a fallu qu'elle revienne à multiples reprises pour relancer sa carrière politique. Et en ce qui concerne Marine Le Pen a estimé, et elle estime, et c'est au plus profond d'elle-même, qu'elle n'a pas commis ce délit. Ouais. Et que, en plus, elle est avocate de formation, donc elle est bretonne, avocate de formation, une Le Pen, tout ça fait que elle refusera de reconnaître, et elle refuse, et c'est à mon avis structurel chez elle, c'est qu'elle estime qu'elle n'est pas coupable, et que le fait qu'elle soit innocente justifie aussi tout ce qu'elle fait politiquement. Et que ses adversaires, en lui faisant ce procès en sorcellerie, estime-t-elle, démontrent encore une fois qu'elle est... Qu'elle est une personnalité qu'on essaye d'éliminer, voilà, et qu'elle représente quelque chose. C'est un biais de confirmation, en fait, qui est extrêmement important chez elle, mais elle justifie tout ce qu'elle fait par le fait « je suis innocente, je ne vais pas aller à Canossa, même en prenant une condamnation à minima ». Je ne vais pas accepter ça. Je n'accepterai pas. Je me plierai pas.
Mais pourtant, Hubert Coudray, elle aurait pu, quelque part, justement, elle avait émis la possibilité de se retirer si jamais, par exemple, elle avait un bracelet électronique durant la campagne. Donc, finalement, elle était quand même capable, dans sa tête, même en se pensant innocente, de laisser la main. C'est-à-dire que il y a ce côté de l'innocence, il y a ce côté où on a l'impression qu'elle veut vraiment que son parti gagne et qu'elle ne voulait pas non plus pourrir sa campagne, quelque part, avec ses histoires judiciaires.
Non, mais d'abord, je pense qu'on ne tire pas de gaieté de cœur un trait sur 15 ans de combat pour avoir relancé ce parti. Elle a succédé à son père en 2011, elle l'a viré en 2015, en 2018, elle a changé le nom du parti. Elle a poursuivi l'œuvre de dédiabolisation qui avait été quand même amorcée par Bruno Maigret, qui avait essayé un petit peu, en bon polytechnicien, de mettre un peu d'ordre dans ce foutoir. Bon, mais il n'avait pas de charisme, Bruno Maigret, donc...
On n'avait pas remarqué.
Ouais, on l'a vite oublié. Bon, alors bref, je pense que pour elle, ça lui faisait quand même mal au cœur. Ouais. Et je pense que plus le temps passait et plus s'accréditait ce plan B dont elle était responsable. Parce que qui a propulsé Jordan Bardella, sinon elle ? Qui l'a défendu, Urbi et Orbi, alors qu'elle a parfois été impitoyable avec ceux qui l'avaient côtoyée et avec qui elle travaillait régulièrement. Donc à un moment donné, l'idée de Bardella finissait par s'imposer, d'autant qu'il était soutenu par tout l'écosystème du milieu des affaires, du groupe Bolloré, des éditorialistes de la droite classique qui s'en veulent toujours de ne pas avoir été plus vigoureux dans leur succès. Enfin bref... elle avait installé ce côté presque inéluctable de l'arrivée à la candidature de Jordan Bardella, qui lui-même d'ailleurs, bien qu'étant extrêmement prudent, et d'ailleurs il n'a pas grand-chose à perdre dans cette affaire, il a 30 ans, ce qui lui arrive est déjà incroyable. Lui, il commençait déjà à franchir un peu la ligne jaune, ouais. C'est-à-dire déclaration Frankfurter Allgemeine sur les retraites, il laissait filtrer ses désaccords en politique étrangère. Jusqu'alors, il me semble, ça se réglait dans le huis clos de leur discussion où elle lui disait « Non, on ne fait pas ça. Ma stratégie, l'union des Français, est plus efficace que l'union des droites à laquelle je ne crois pas, etc. » Bon, là, il s'était quand même enhardi et il fallait que maman reprenne la main. Donc,
À tel point d'ailleurs, et je l'ai appris, je ne vais pas balancer le nom, mais j'ai fait quelques plateaux hier, et un célèbre journaliste politique qui suit le Rassemblement National depuis des années m'expliquait que vont-ils faire des affiches Jordan Bardella qui étaient déjà sorties et qui étaient déjà en stock.
Je dirais que ça a beaucoup d'avantages, cette solution. D'abord parce qu'il n'était pas prêt... Il avait fait une seule campagne européenne, glorieuse d'ailleurs.
Hein. Deux campagnes européennes.
Deux campagnes européennes, mais surtout la dernière. Enfin. Oui. Et puis ensuite, il y a eu le jackpot de la dissolution, mais enfin, ce n'était pas lui directement.
Non.
Et il a encore beaucoup à apprendre, même s'il est incontestablement doué. Donc je pense que c'est plus facile pour elle d'affirmer sa ligne et de dire « on fait comme avant, il ne s'est rien passé » que l'inverse. Parce que quand on oppose deux rassemblements nationaux, je crois que c'est faux, en fait. Ils se posaient beaucoup de questions. Les députés étaient quand même assez inquiets. On les entendait plus. C'était les muets du sérail depuis quelques semaines. Mais malgré tout, ils sont attachés et elle tient son parti. Mmh. Donc, c'est plus facile pour elle de réaffirmer sa présence que d'imposer un bouleversement complet qu'il aurait mis, lui, en première ligne. Donc, je pense que c'est plus simple comme ça. La question étant, est-ce que c'est plus efficace ?
Ça, c'est effectivement...
Je pense que oui. Même si la question ne m'était pas destinée.
Je pense qu'elle se l'est posée sans doute elle-même.
Oui.
Les dernières semaines, à mon avis, lui ont aussi amené beaucoup de doutes sur cette capacité de Jordan Bardella à pouvoir...
Les derniers événements sur lui-même. Et en même temps, elle s'est réfugiée dans les derniers mois dans une espèce de sublimation. Sainte Thérèse se dévouant, ou Jeanne d'Arc se dévouant pour la patrie et mettant un mouchoir sur ses ambitions, ce qui est d'ailleurs souvent assez féminin, parce que les femmes sont plus dans l'action que dans l'ego, contrairement aux hommes. Et donc, elle avait accepté quelque chose, mais on sentait bien qu'au fur et à mesure qu'on préparait son cercueil, elle avait envie d'y aller. On s'est parfois posé des doutes sur ses vraies volontés, est-ce qu'elle a ce clivage comme le père, qui dans le fond était un tribun, mais on se demandait vraiment s'il voulait le pouvoir avec toutes ses provocations. Elle, on finissait par avoir un doute, mais je pense que plus on lui disait que c'était Jordan Bardella, plus elle avait envie d'y aller.
Arnaud Stéphan, ce qu'on a observé effectivement ces dernières semaines, c'est que Jordan Bardella se mettait un petit peu en avant, comme si il prenait un peu de l'élan avant de faire le grand saut, mais quelque part... on a vu quand même qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des clans qui commençaient un petit peu à se former. Bon, c'est des clans qui existaient déjà, mais qui se sont un peu plus révélés sur ces dernières semaines. D'un côté, plutôt, on va dire, les députés du Nord, comme des Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu ou d'autres. D'un autre côté, des personnalités plutôt, justement, qui viennent du sud de la France ou proches de l'UDR également, qui étaient plutôt du côté de Jordan Bardella. Concrètement, est-ce que justement le fait que Marine Le Pen soit officiellement candidate pour 2027, selon vous, ça va mettre un petit peu le couvercle sur la cocotte minute? Est-ce que ça va finalement calmer toutes ces tensions qui étaient en train de ressortir?
Personne n'a envie d'aller affronter la mère Tapdur. C'était cette expression qui avait été utilisée par Jean-Marie Le Pen, je crois, à propos même de la mère Tapdur.
Il paraît que quand elle s'énerve, tout le monde passe au bureau. Elle a un côté volcanique, elle peut être très empathique, généreuse, elle peut avoir la larme facile, mais quand elle s'énerve... Il n'y a personne pour lui faire face. Hein.
Et donc déjà, ça va remettre tout le monde dans l'ordre. Et puis, on a beaucoup parlé de ces clans, etc. Il faut quand même revenir sur la réalité. Jordan Bardella, combien de divisions? Le problème, c'est que ce sont des tout petits groupes. Et particulièrement pour Jordan Bardella, qui a beaucoup de mal avec le fait de prendre des conseils ailleurs. Il a beaucoup de mal avec la différence d'âge. Il a toujours l'impression qu'on va lui faire la leçon.
Il n'en peut plus, d'ailleurs.
Il a vraiment un problème avec ça. Et il a beaucoup de problèmes à gérer sa frustration. Mmh. Et ce qui, pour un politique, n'est jamais très bon, en fait. Et en plus, il n'a pas voulu s'entourer à cause de ça, parce que toujours l'impression qu'on allait lui donner la leçon, et il ne supporte pas ça.
C'est vrai que son entourage a plutôt son âge, a plutôt sa génération.
Ah, ils ont 14 ans et ils sont très peu nombreux.
Il y a Alexandre Loubet,
notamment.
Ils sont très intelligents, mais il y a François Pardol, Pierre-Romain Thionnet, c'est pour ça quand on dit il y a deux RN qui s'opposent, non. Voilà. Pas de RN.
Ouais. Après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, plutôt dans des milieux où aussi on a voulu bénéficier de cette espèce de vague. Mais un popular opinion, on m'excusera pour cet anglicisme.
Ah là là, au secours.
Voilà, pour cette opinion impopulaire. Je pense aussi que Jordan Bardella, je l'ai vécu pendant la campagne de 2022, et d'autres, d'ailleurs, plutôt de son côté, regardaient avec beaucoup de gourmandise la campagne d'Éric Zemmour. Ils ont cru que la campagne d'Éric Zemmour était sur les bons thèmes, mais qu'elle était mal incarnée. Mmh. Et ils se sont dit, voilà, l'union des droites, ça c'est un bon truc, il faut revenir, il faut discuter avec le patronat, il faut être sérieux, il faut machin, plutôt que ce qui était le fond de sauce et la réalité, en vérité, du RN, qui est un parti extrêmement populaire, sur des bases, même si ça touche aujourd'hui des classes moyennes, etc. Les classes moyennes, pour beaucoup, ce sont les anciennes classes populaires blanches, hein, on va pas se mentir, et qui évidemment sont poussées. Et donc, ils ont regardé cette campagne d'Éric Zemmour, ils se sont dit, ah, il y a quand même des trucs, on aurait bien aimé faire la même chose, mais Éric Zemmour l'a mal incarné. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il se retrouve quasiment en situation d'être candidat? Il fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il commence à faire une campagne de deuxième tour avant de faire une campagne de premier tour, il oublie la sociologie de son parti, il va aller discuter avec les grands patrons au China Club, il va à l'université d'été du MEDEF, tout ça...
Grand Prix de Formule 1.
Au Grand Prix de Formule 1, où tout le monde nous dit « Regardez, ça n'a pas eu d'effet ». Mais c'est normal, ça met du temps à infuser sous ce genre de choses. Et en plus, dans le cas de Jordan Bardella, le risque était l'accumulation, en fait. Et je crois que Marine Le Pen a commencé à se dire, il va taper dans notre socle. On a besoin de rassembler notre camp, parce que ce qui nous fait notre différence et notre force, c'est d'être capable d'arriver dès le premier tour avec entre 25 et 30 dès le premier tour. Si on commence à envoyer des messages hyper confusants sur la retraite, sur le fait qu'on va à Monaco, que la marche blanche, il y en a tous les jours, cette phrase...
C'est quand même une erreur, une faute de quart importante.
Et ça rappelle un peu l'erreur d'Éric Zemmour, justement, qui avait commencé à expliquer sur les enfants handicapés, ou qui avait fait Marine Le Pen, de toute façon, est prisonnière d'un ghetto d'ouvriers et de chômeurs. Enfin, c'est, bravo. Bravo. Bon,
On va revenir justement
sur une chose. Pense qu'elle a compris également que la campagne de Jacques Chirac, et Jacques Chirac, ça a quand même été un référent pour les Le Pen, hein, puisque c'est lui que le père a affronté. Et elle a compris que il fallait parfois contourner à gauche si on voulait s'imposer.
Je vous rends la parole dans une seconde, Hubert Coudurier. Je dois simplement rappeler à nos auditeurs que, eh bien, nous sommes sur Radio Courtoisie, qui est une radio associative, qui est une radio qui ne vit pas de subventions, qui ne vit pas de partenariats, qui ne vit que de vos dons, chers auditeurs. L'été est souvent une période de vache maigre pour nous, parce que forcément, nous ne diffusons pas la matinale dans son intégralité, ce qui fait que vous êtes un petit peu moins là avec nous. C'est pourquoi nous avons besoin de vous.
Et pour manifester votre soutien financier à Radio Courtoisie, deux solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr. Et puis, vous pouvez également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous reprenons cette émission. Arnaud, Stéphane, nous discutions justement très légèrement en antenne, mais finalement de quelque chose qui est assez juste dans le fond, sur l'image de Jordan Bardella qui renvoyait par rapport à Marine Le Pen. C'est que là, et d'ailleurs la formule de la France Insoumise, je dois dire, est assez bien trouvée. C'est-à-dire que c'était, la France Insoumise a trouvé cette formule. On avait le choix entre le bip bip pour le bracelet de Marine Le Pen et le bling bling avec Jordan Bardella.
On peut reprocher beaucoup de choses à la France Insoumise. On peut pas leur reprocher de ne pas bosser. Hein, je vous invite d'ailleurs par curiosité à aller voir le site de leur l'Institut La Boétie. Vous allez comprendre ce que c'est que c'est pas le campus Emera de Jordan Bardella.
Et alors justement, ce qu'on voulait dire justement par là, c'est que Jordan Bardella se donne comme, enfin en fait, a donné des signaux qu'il était effectivement, plus proche, enfin en tout cas de moins en moins proche quelque part peut-être des classes populaires dans sa manière de communiquer. Est-ce que finalement ça s'inscrit selon vous dans une ça pourrait s'inscrire en tout cas à l'avenir dans une stratégie du tandem avec Marine Le Pen qui va chercher les classes populaires, Jordan Bardella qui va chercher les classes plutôt aisées. Maintenant que Marine Le Pen est candidate, est-ce que ça peut pas devenir un atout d'une quelconque façon?
Mais de toute façon on était rentré dans une séquence qui était extrêmement confuse. Vous aviez cette idée du tandem. Bon, à la limite, ça peut justifier, c'est pas trop dans les institutions françaises, le ticket c'est très américain. Ouais. Mais bon, on pouvait imaginer, en effet, j'ai besoin de mon aile droite, une un peu plus conservatrice, un peu plus suridentitaire, qui va parler un peu plus à ses classes bourgeoises, qui nous manque, ce qui nous empêche de faire le 50+1. Mais on était passé de cette histoire de tandem à tout d'un coup à un monocycle. C'est-à-dire que vous aviez Jordan Bardella qui était tout seul et qui était complètement en roue libre, en fait. Ouais. Il faisait ce qu'il voulait, il commençait à tenir des propos sur les retraites.
Roue libre, vous fiez bien la métaphore.
Mais bien sûr, j'essaye. On est en plein...
Tour de France,
voilà. Il était lâché puisque on avait une Marine Le Pen qui était omnubilée par son procès et qui ne faisait quasiment plus de politique. Faut reconnaître les choses.
Oui.
Qu'à ce moment-là, on est revenu tout d'un coup en l'espace d'une soirée, on est revenu au tandem, mais un tandem où lui n'a plus de pédale. Donc c'est-à-dire que il est à l'arrière sur le bord bagage et il regarde un peu ce qui va se passer, il regarde le paysage, mais Marine Le Pen l'a remis à sa place, c'est-à-dire derrière, c'est elle qui a le guidon à l'avant, c'est elle qui pédale, mais il pourra lui servir. On va pas dire non, ça serait mentir que de dire que Jordan Bardella ne représente rien en termes politiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire non plus qu'il n'a pas de talent, c'est pas vrai. Ça serait faux de dire ça. Il n'en demeure pas moins que quand vous avez deux personnes. Mais ça, c'est une erreur. Moi, on en a parlé déjà ici sur ce plateau. L'histoire des deux marques dans la même maison, j'ai jamais compris. Mais bon, c'est pas grave. Vous créez un effet de contraste et c'est jamais très bon parce que vous permettez le choix. Et donc, quand vous faites le choix, vous créez aussi potentiellement du conflit.
C'est la genèse de tout ça. Incontestablement, Jordan Bardella a des atouts et il est prometteur. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a poussé si haut, si vite? Je pense qu'il y a eu une volonté de se débarrasser un peu du canal historique, de tous ceux qui lui donnaient des conseils et qu'elle ne supportait plus. Il avait l'air malléable, gentil, il s'est avancé masqué. Et au cours des derniers mois, d'ailleurs, il en avait marre d'être un peu démasqué. Même si au début, on le qualifiait de... Enfin, vous connaissez ça sans doute mieux que moi, mais on le qualifiait un peu de cyborg. Il fuyait les journalistes. Donc, et en même temps, il a pris confiance en lui, il a commencé à se lâcher. Et elle s'en agaçait un peu, discrètement, parce qu'elle faisait très très attention. En plus, il est susceptible, comme les gens qui n'ont pas une énorme confiance en eux. Elle se met quasiment à nu, elle a fondu l'armure... notamment lors d'un fameux discours à Reims, où on pensait que Zemmour l'avait écrabouillé, puis non, bah non. Lui, il est pour l'instant beaucoup plus fragile, finalement.
Mais est-ce que, là, par exemple, ce matin, les deux vont faire un déplacement, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud Stéphane, à La Flèche, ils seront présents dans cette ville nouvellement conquise par le RN. Est-ce que là, donc, ce qui est probable, c'est qu'ils vont quand même afficher leur unité pendant au moins quelques semaines, finalement. Encore une fois, toutes les tensions ont passé. Est-ce que maintenant, elles vont forcément se tasser et puis,
Ah oui, ils vont afficher leur unité plus que quelques semaines, à mon avis, jusqu'au résultat des élections. De toute façon, on lui prête toujours des intentions de Brutus, mais il n'en a même pas besoin. Il a été aspiré par elle, elle l'a poussé. C'est pour lui déjà une réussite fabuleuse. Et donc... le moment venu, évidemment, elle, c'est son dernier tour de piste. Donc, il sera bien placé pour prendre la succession. Enfin, on dit maintenant, alors ça, vous en savez peut-être plus que moi, qu'il veut faire, il aurait voulu faire campagne avec Éric Ciotti et Marion Maréchal, qui est revenu finalement dans le circuit et qu'après avoir détesté, maintenant.
C'est pas un bon signe, généralement. C'est le chat noir, un peu, Marion, ces derniers.
C'est
temps,
sa caution Le Pen. Bon. Mais je pense que oui, là, maintenant, ils sont. Unis pour le meilleur et pour le pire.
Et il y a un point quand même sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait que Jordan Bardella avait été, même par tout le système médiatique, assez adoubé. Et en fait, on en arrivait à un point que je trouvais assez fascinant, dans lequel on ne testait même plus Marine Le Pen dans les sondages, dans certains sondages, on testait Jordan Bardella uniquement.
Qui a fait ce sondage ?
Il y a plusieurs sondages qui ont été faits ces derniers mois.
Le premier qui a été fait par les amis de Jordan Bardella, puisque c'était... c'était les gens proches de la sphère Sterrin. Ce sont les premiers, c'était l'Institut Hexagone, qui le premier a fait un sondage sans Marine Le Pen. S'en étant aperçu, parce que les informations lui étaient remontées, Marine Le Pen ne l'avait pas bien pris.
Je pense que François Durand, son conseiller économique, s'est fait un peu engueuler.
Et donc, au dernier moment, ils ont été obligés de la tester quand même, mais sur un échantillon qui n'avait rien à voir, qui était de 1500 personnes. Enfin, bon, ça avait perdu un peu son côté intéressant.
Juste au-delà de cette sphère stérile, globalement, c'était quand même un message qui était bombardé dans à peu près tous les médias que Marine Le Pen, ça y est, c'était passé, et que Jordan Bardella, c'était lui. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Je pas la vérité absolue, mais quand vos adversaires commencent à vous trouver des qualités, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et je pense que les adversaires du Rassemblement National, que ça soit la gauche, que ça soit le bloc central et la droite mi-molle, ils avaient compris Finalement Jordan Bardella était un don du ciel pour eux, puisque il était exactement ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire un candidat qui tournait le dos à cette classe populaire, cette France des déclassés, cette France des invisibilisés, cette France qui avait ramassé avec la mondialisation, la désindustrialisation, etc., et cette France des parents, des enfants qui se font tuer à coups de pied dans la tête. Et ça,
il lui tournait pas le dos.
Mais si, quand vous allez à Monaco,
exagérez. Non, attendez, pardon. Il allait pas que à Monaco. Il allait aussi dans
au MEDEF. C'est vrai.
Non, c'est exact. Il allait aussi faire des foires dans les petites villes de campagne, etc. De Bourgogne, de tout ça.
Il est président d'un parti.
Vous pouvez pas dire que Jordan Bardella ne va jamais à la campagne.
Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que son attitude, le fait même qu'il ait accepté de jouer le jeu, d'aller systématiquement, parce que c'était devenu quand même un truc un peu systématique, d'aller voir ses grands patrons, d'aller voir le MEDEF. Le MEDEF, ça vous rapporte zéro voix, faut arrêter. Je veux dire, la totalité des gens qui sont dans la réunion du MEDEF, il y en a, on va dire, 90%, oui, ils vous détestent.
Il a été influencé.
Mais c'est ça l'histoire. Mais bien sûr.
Voir Nicolas Sarkozy.
Bien sûr. Mais qui l'a amené là-bas? Qui l'a amené là-bas?
Bien sûr.
Voilà.
Et puis dans le groupe Bolloré, c'est pas.
Mais voilà.
C'est connu que finalement, il correspondait plus aux valeurs et il y a une volonté de la droite conservatrice de reprendre le pouvoir, de sauver aussi le pays, hein, parce que ça va quand même très mal. Et simplement, elle pense que la bonne technique, c'est pas forcément celle d'afficher ses intentions. D'ailleurs, quand elle a vu Vincent Bolloré, je le raconte dans le livre, elle lui a dit un peu malicieusement, parce que elle s'est quand même un peu pris de bec avec ses news pendant la campagne. Elle estimait qu'elle était totalement occultée au profit de Zemmour.
Pas totalement faux.
Elle leur a dit, je pense que vous devriez prendre un bon journaliste économique, parce qu'elle sait les procès d'intention qu'on lui fait régulièrement sur le fait qu'elle connaît rien à l'économie.
Et justement, même on pourrait se rappeler de ce qui s'était passé également, c'est après la dissolution de l'Assemblée nationale, CNews qui avait fait 3-4 jours de campagne anti-dissolution, quelque part, enfin anti-renversement du gouvernement, pardon, de Michel Barnier, qui avait fait un reportage dès le lendemain pour expliquer que les électeurs RN étaient mécontents. Mais justement, est-ce que selon vous, c'est parce que Marine Le Pen a toujours refusé de rentrer dans le sérail de la droite, ou est-ce que c'est parce qu'ils pensent que Jordan Bardella a plus de chances de l'emporter?
Non, il a plus de chances de l'emporter sur des thématiques qui leur plaisent à eux. C'est-à-dire sur les retraites, sur la capitalisation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire tout d'un coup? Moi, je suis pas opposé à la capitalisation à titre personnel, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas dans la ligne du parti. Il peut pas faire une émission de télé et sortir cette histoire de capitalisation alors que Marine Le Pen n'était pas au courant, que c'est pas dans le programme du RN ni quoi que ce soit. Vous pouvez pas créer une ligne politique au moindre passage télé. Et c'était devenu un peu ça ces derniers temps. Quand je vous dis, vous avez, c'est toujours pareil. Vous avez vous avez toujours des paradoxes dans les formations politiques. Pendant très longtemps, au RPR, on parlait comme Charles Pasqua et on agissait comme Pierre Méhaignery. Vous voyez ce que je veux dire pour les plus anciens, comme Pierre Méhaignery, voilà, le CDS, les jeunes CDS, ça m'a toujours, j'ai jamais compris que ça puisse exister. Et donc, c'était le paradoxe, c'est-à-dire cette insincérité, c'est-à-dire on envoyait Charles Pasqua sur les plateaux, terroriste, vous allez voir, ce coup vous allez voir, et puis derrière, on se retrouvait avec Barrault, on se retrouvait avec Stasi, etc.
C'est le c'était principe infernal. Aussi du grand parti attrape tout.
Et le RN, pendant longtemps, Jean-Marie Le Pen connaissait son public. Il savait, il avait un espèce de lien quasi charnel avec ses électeurs. Il était adoré. Il était voilà. Bref, Marine Le Pen est dans cette relation hyper humaine. Vous parliez tout à l'heure de l'alarme facile. Mais moi, tout le monde a déjà vu Marine Le Pen extrêmement affectée par des situations de militants, de situations sociales, personnelles, etc. C'est une réalité. Jordan Bardella, il se met une armure là-dessus et il se sent tout d'un coup plus à l'aise par des gens qui le reçoivent, qui le traitent. Ce qui n'est pas le cas, Marine Le Pen a été pas traitée parce qu'on estimait que c'était la candidate des classes populaires, on n'avait pas envie de la voir.
Le Figaro l'avait surnommée la poissonnière.
Exactement. Et quand vous avez un Jordan Bardella qui tout d'un coup se fait traiter, qu'il est reçu, qu'on dit qu'il est formidable parce qu'il est pour la retraite à 67 ans, etc. Et la capitalisation.
Il tombe un peu dans l'image du Rastignac, en fait.
Il y a ça, et puis il est le, enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les catégories populaires, tout d'un coup, ils aiment bien que la réussite de leur leader, mais ils aiment pas non plus que ça se fasse à leur ça se fasse à leur détriment. Et la petite musique qui commençait à monter, c'était voilà, c'est bien, Jordan Bardella est reçu par le système, enfin nous sommes reconnus à notre juste valeur. Ah, attendez, c'est quoi cette histoire sur la retraite à 67 ans? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sur la capitalisation? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sur je vais aller voir Nicolas Sarkozy? Il faut quand même se rappeler ce que c'est que l'histoire de ce parti. Jacques Chirac, c'est l'ennemi du Front National. Et tout d'un coup, on commence à dire oui, non, il avait quand même des grandes qualités. On commence un peu à l'imiter, même les lunettes, le style, le machin, etc. Nicolas Sarkozy, ça commence à être un peu too much aussi pour un certain nombre de gens qui font
Marine
vivre
le
parti.
Le Pen a rappelé que c'était un adversaire.
Oui, et bien sûr.
Parce qu'effectivement, en 2007, quand il est élu, au premier tour, il fait 30 points. Ouais. Et le RN, 7, Le Pen, 6. Est à 10.
10.
Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Ouais. Oui, bien sûr.
Oui. Et puis, alors, juste une dernière question pour vous, Hubert Coudurier. Après, on vous laissera, ou alors, si jamais vous souhaitez rester, vous pourrez également. Mais d'une certaine façon, moi, la question que je me pose, c'est aussi comment est-ce que Jordan Bardella, selon vous, vit ça de son côté? Parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, il a été propulsé, il s'y préparait, comme en 2024, il se préparait à aller à Matignon. Est-ce que, selon vous, ça n'est pas justement de grosses défaites, de grosses déceptions, quelque part, coup sur coup? Est-ce qu'il va vraiment jouer le jeu? Est-ce que, finalement, il va se dire, bon, bah, déjà, j'ai une chance d'être Premier ministre dans un an, c'est déjà superbe, et puis voilà. Est-ce que Marine Le Pen lui a quelque part pas trop promis par rapport à ce qu'il aura réellement?
Bah, ça, on verra, parce que l'histoire n'est pas terminée. Bon, le problème des politiques, c'est la toute-puissance. S'il n'y avait pas la toute-puissance, il ne ferait rien. Mais regardez, même pour Zemmour, il a fait à l'arrivée 7 points. C'était quand même pas si mal pour un journaliste qui se lance en politique. Mais il s'y voyait. Il se voyait en haut de l'affiche.
Oui.
Bon, Bardella, il a un peu trop claironné à travers au moment du plan Matignon que bah, c'était fait.
Mmh.
Et rien n'est fait pour le RN. Parce que même si ils tiennent, et notamment Marine Le Pen, Georgia Meloni en haute suspicion, elle a réussi ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Ils ne sont pas au pouvoir. Il y a une résistance du bloc central qui va peut-être être bousculé par le dégagisme et enfin quand on voit effectivement le culot qu'ils ont tous les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron à se remettre en selle et à se relancer dans le circuit, quand on voit que lui-même le président fait plutôt bonne figure à l'international, on n'a jamais connu une fin de mandat aussi heureuse.
Mmh.
On se dit que bah pour le RN, même si la progression est exceptionnelle, ils sont aujourd'hui à 126 députés, c'est du jamais vu. Ils devraient effectivement peut-être pas se contenter de ce qu'ils ont, mais ne pas trop claironner que c'est fait. Mmh. Non, c'est pas fait. Et Mélenchon, il est hyper dangereux, hyper pro. Il peut nous réserver encore pas mal de surprises. En général, le RN, il est surévalué et le LFI, sous-évalué.
Oui.
Donc, Bardella, il est quand même assez adaptable et il va ajuster le tir. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, il allait dans le sud voir son copain Giletti dans le Var, discrètement, il y a de temps en temps une photo de closer, mais je veux dire, il ne se montrait pas comme il s'est affiché.
Ouais.
Je pense qu'il va peut-être revenir à plus de discrétion, mais enfin, j'en sais rien, parce que pour l'instant, il voit pas tellement les journalistes. Hein.
Alors, écoutez, est-ce que vous voulez rester avec nous, Hubert Coudurier, ou est-ce que vous devez...
Un petit peu, mais
comme vous le souhaitez.
Je peux rester encore 10 minutes.
Bon, très bien, bah, alors, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, la question qui se pose, je reviens à vous, Arnaud Stéphane, c'est quand même, évidemment, le fait que le procès, c'est sûr, va empoisonner la campagne de Marine Le Pen, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que, même si elle se pourvoit en cassation, c'est-à-dire que ce sera pas du tout la même chose qu'en 2022, où en 2022, on était encore à l'état de soupçon, on était encore à l'état de... Le procès n'était pas encore très... Non, il était avancé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas encore eu de première condamnation,
non.
Déjà.
Non.
Là, en l'occurrence, on sait que elle devrait être condamnée, si le jugement de la cour d'appel était suivi, si elle ne se pourvoyait pas en cassation, elle devrait être condamnée à du bracelet électronique, ce qui est quand même assez lourd, à de l'inéligibilité quand même, à une grosse amende également. Dans le fond, comment est-ce qu'on communique justement pour essayer de mettre ça sous le tapis, pour essayer de... parce que d'une certaine façon, ce qu'on pourrait se dire, c'est que les gens qui étaient prêts à faire le pas pour aller vers le Rassemblement National, de leur côté, vont peut-être pas forcément faire le pas pour une personne qui est condamnée pour détournement de fonds publics.
Ah non, mais c'est sûr que sur une partie de l'électorat plutôt âgé, plutôt conservateur, ça peut être un repoussoir. Cela dit, ça dépendra de qui est le candidat en face de Marine Le Pen au second tour. Si c'est Mélenchon, il y a un certain nombre de gens qui préféreront se mettre quand même une pince à linge sur le nez et ils iront quand même voter pour Marine Le Pen pour éviter que ça soit Jean-Luc Mélenchon. Quand vous avez une campagne électorale comme ça, je sais que c'est peut-être un peu radical ce que je vais dire, mais vous avez intérêt à ne rester que sur votre ligne de nage. Et peut-être, à la limite, laisser tomber la campagne classique du débat, de la multiplication des débats, etc. Vous n'en avez plus besoin, en fait. Pourquoi ? Parce que cette campagne va être faite sur du bruit et sur le fait que certains vont avoir besoin de se faire de la notoriété. Vous n'avez pas besoin de faire le marchepied pour des gens qui ont besoin de notoriété. Leur notoriété, ils ont qu'à se la faire tout seuls. Et moi, je serais Marine Le Pen, ou si j'étais, comme en 2022, j'avais la chance de pouvoir la conseiller, comme ça a été le cas, je lui dirais d'utiliser le débat avec beaucoup de distance, et surtout de manière homéopathique, voire pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt sur cette année à ce que Marine Le Pen s'expose à des débats.
C'est pour ça que l'affaire du bracelet électronique n'était pas si gênante pour elle, parce qu'elle est déjà archi connue, elle parle beaucoup. Je viens de faire une biographie, mais enfin, c'est la troisième ou la quatrième. Elle est connue, elle est bien perçue par les Français. Elle a, je pense, quelques correctifs d'image à apporter sur sa crédibilité. C'est un parti qui s'est professionnalisé, dont l'ossature est plus sérieuse, qui a encore des progrès à faire, mais elle n'a pas besoin de se répandre, elle parle beaucoup. Moi, j'avais cité à un de ses conseillers le cas de Mitterrand, qui en 80 était parti 3 semaines en Chine. Je pense qu'elle aurait besoin de travailler un peu l'international, par exemple.
C'est vrai. Mais les dernières fois où elle a travaillé l'international, elle a été assez peu chanceuse, parce qu'elle a eu l'occasion de faire des très belles choses. Elle était allée en Égypte, elle est allée dans un paquet de pays où elle avait été très bien reçue, en Afrique.
Elle est allée au Tchad, ça s'est bien passé, d'autant bien, plus que le voyage du ministre des Affaires étrangères, Jacques Barrot, c'était
excessivement mal passé pour elle.
puisqu'ils ont rompu les relations diplomatiques juste après son départ. Bon, finalement, Macron l'a quand même récupéré, parce que ça reste le président. Et le Quai d'Orsay s'y connaît pour mettre des entraves à tous ceux qui veulent aller dans son précaré.
Ça, c'est quand même un point qui est pas négligeable, même au niveau européen. On sait que Marine Le Pen est quand même plus connue et plus maîtrisée quelque part par les autres dirigeants européens que Jordan Bardella. Je prends l'exemple. Matteo Salvini, évidemment, soutient tout à fait Marine Le Pen. Santiago Abascal, en Espagne, a de très bonnes relations également avec Marine Le Pen. Nigel Farage, lui, a amélioré ses relations avec Marine Le Pen. Dans le fond, est-ce que justement le fait qu'elle soit candidate, c'est pas une bonne nouvelle, même pour la stature internationale du RN?
Ben, en tout cas, il y a du travail à faire. Bon, Salvini, il est un peu carbonisé là maintenant, et de ce point de vue-là, je crois que Marion Maréchal a la bonne approche, puisqu'elle est relativement proche de Madame Meloni, que finalement c'est l'avenir, c'est le travail qui a été fait par la présidente du Conseil italien devrait inspirer le RN sur la manière dont il faut appréhender les questions européennes, l'Alliance Atlantique, avoir un positionnement subtil à l'égard de la Russie, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a quand même un côté au RN, c'est un peu la grosse caisse, quoi. Donc il va falloir, si on veut séduire une partie des électeurs de la droite traditionnelle, des élites, comme on dit, qui restent une forme d'atavisme en France. Hein. Les lignes politiques, elles bougent pas si vite que ça. Il va falloir aussi qu'elles poursuivent ce travail de professionnalisation, notamment à l'international.
C'est sûr que pendant longtemps, on est souvent prisonnier de ses propres postures, en fait, souvent. Et le fait, tout d'un coup, de s'être réclamé toujours d'une sorte de gaullisme diplomatique, fait qu'on est aussi prisonnier de ces lignes. C'est-à-dire que un gaullisme diplomatique, ça a laissé des traces, hein, quand même, toute la période des années, la fin des années 90, la première guerre d'Irak, etc., etc., la guerre en ex-Yougoslavie, le passage de Philippot quand même aussi, il faut pas, ça n'a pas été rien quand même, ça a été pendant 5 ans quand même, là aussi vous parliez de la grosse caisse, on y a été, hein, sur les relations avec la Russie, la détestation de l'Amérique, le retour à une politique gaullienne, c'est-à-dire requitter le commandement intégré de l'OTAN pour après 66-2026, vous êtes prisonnier, de ça. Et en même temps, la réalité internationale vous amène à penser le contraire. Et d'ailleurs, tous vos alliés puissants, ceux qui sont au pouvoir, font exactement l'inverse. Il y a un moment donné, ça va être très compliqué de jouer le surgaullisme, plus gaulliste que les gaullistes sur l'international. Et en même temps, se confronter au monde dans sa réalité.
Oui, parce que la géopolitique prend de plus en plus d'importance. Et le problème parfois du RN et de Marine Le Pen, c'est qu'elle a des positions très tranchées. Alors, elle est fidèle. Par exemple, elle est allée soutenir Orban, mais bon, est-ce que c'était très utile d'y aller 8 jours avant sa défaite? Elle a pris un virage sur Israël qui est quand même un retour en arrière par rapport à la diplomatie d'équilibre des gaullistes. Alors, elle prolonge un petit peu l'infléchissement qui avait été donné par Sarkozy, mais à une époque où Benjamin Netanyahou est quand même aujourd'hui extrêmement rejeté, il va sans doute être battu aux prochaines élections. Elle fait des choix. Il faudra qu'elle s'en explique aussi.
Mais à droite, c'est peut-être la plus nuancée justement sur cette question israélienne quand même dans le sens où pour le coup,
pas vraiment nuancée. Moi, au départ, elle m'a dit c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses amis. Donc, elle s'est rangée derrière la ligne de Netanyahou, puis après elle a un
peu élaboré. Ce qui était la ligne historique du mouvement national.
Oui, hein. En fait, c'est très curieux parce qu'on en revient toujours un peu à son père.
Exactement.
Marion Maréchal, Jordan Bardella reprennent l'idéologie libérale du père. Et sur l'international, c'est un peu pareil. Bon, alors là, elle s'est férocement payée Al-Shara, puisque Macron est allé lui rendre visite.
Macron et ses lunettes.
Oui. Mais. Macron est quand même assez doué. En 2017, il a explosé lors du débat. Elle en a conçu d'ailleurs, vous en étiez, un vif dépit. Je pense qu'elle est meilleure aujourd'hui. Elle a progressé. Elle intervient souvent sur les chaînes d'infos. On voit que sa pensée s'est affermie. Elle est plus nuancée. Elle évite de prendre position trop brutalement sur des sujets qui peuvent être impactants pour quelqu'un qui s'apprête à prendre le pouvoir. Notamment, on l'a vu sur les gilets jaunes. Elle a évité la tentation trumpiste et elle a eu raison parce que Trump, l'avenir de Trump n'est quand même pas rayonnant. On verra, mais
il a 81 ans, son avenir, il peut se permettre de peut-être. Mais en termes de l'héritage politique,
Il aura de toute façon marqué les esprits et il aura joué un rôle qui est pas inutile pour réaligner l'Amérique sur ses valeurs. Mais en même temps, en fait. Problème de Marine Le Pen, c'est que elle se cherche entre l'attitude de son père qui était quand même très excessive, mais en même temps plein de talent et incroyablement provocateur. Voilà.
Et un pif,
cultivé. Elle n'a pas le même niveau non plus sur le plan littéraire. Elle n'est pas au même niveau. Hein. Il récitait des vers de Victor Hugo à la fin de sa vie, le dernier jour, je crois, d'après ce que m'a raconté Bruno Gollnisch. Et en même temps, elle essaie de trouver une voie qui correspond à l'époque actuelle. C'est encore un mystère. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon livre « Le mystère Marine Le Pen », si je peux me permettre.
Mais je rebondis juste un instant sur ce que vous venez de dire. Le 20h de TF1 d'hier, je suis Marine Le Pen médiatiquement et politiquement depuis quand même un certain temps. J'ai regardé ses dernières prestations et je me souviens de ses prestations sur les 10 dernières années, les 15 dernières années. J'ai trouvé Marine Le Pen hier soir aux 20h de TF1 extrêmement apaisée, ne cherchant pas ses mots comme ça peut lui arriver quelquefois quand elle essaye de structurer sa pensée, etc. Elle était extrêmement calme, extrêmement déterminée. Elle avait un ton de voix impeccable. Je trouve que c'est peut-être le meilleur 20h de TF1 qu'elle ait faite. Et en plus, pour une raison qu'on ignore, et on aura peut-être une explication un jour, Gilles Boulot a été extrêmement mauvais. Genre, il s'est perdu dans des trucs, il a insisté sur des choses qui ne méritaient pas d'être assez. Et il s'est mis vraiment 10 crans en dessous de Marine Le Pen, alors que quelquefois, il est très pugnace et il déstabilise ses invités. Hier, elle était intouchable hier.
C'est-à-dire que, à force de la caricaturer, on peut passer à côté de ce qu'elle est, de la sérénité qu'elle a acquis, de son expérience, du fait que même dans sa relation un peu filiale avec Bardella, bien, elle le modère et elle le conseille intelligemment, mais sans vouloir l'humilier. Parce que sur l'épisode de la Nouvelle-Calédonie où elle avait dit qu'elle connaissait mieux le dossier que lui, en fait elle l'avait pas dit comme ça et il a pris la mouche sans doute un peu bêtement. Mais il faut reconnaître qu'elle a, elle a pris une dimension et que de toute façon, selon les institutions de la 5e, l'élection présidentielle, c'est la relation entre un homme, une femme et le pays. Et donc, elle est en train, petit à petit, à travers toutes les épreuves qu'elle a subies, d'accréditer l'idée qu'elle pourrait être à la hauteur de la fonction.
Alors, dans cette fois, il y a une question qui, encore une fois, se pose, c'est qu'on a dit qu'effectivement, Jordan Bardella était favorisé par une certaine partie des gens, mais on a aussi entendu des bruits de couloir sur lesquels, en fait, effectivement, pour la majorité présidentielle particulièrement, Marine Le Pen était celle des deux qui leur faisait le plus peur. Ça, c'est quelque part, évidemment, ce qui est complémentaire, mais c'est des bruits de couloir qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines. Cela étant, Marine Le Pen, on l'a entendu hier soir, justement, aux 20h, a essayé, au bout de quelques minutes, d'écarter donc ce que disait Gilles Boulot en disant « Mais de toute façon, effectivement, ce sera notre projet. Est-ce que les Français y adhéreront ou pas? Est-ce qu'ils suivront, justement, nos idées? Est-ce qu'elle va pas être obligée, justement, encore une fois, de passer sa campagne à se défendre d'être une délinquante financière ou est-ce qu'elle va, enfin, selon vous, elle va réussir à imposer quelque part, enfin, comment elle devrait imposer ses idées, son idée de rencontre, alors qu'il y a tous ces candidats en face qui, évidemment, vont lui taper dessus.
Est-ce que, j'en reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure.
À part, effectivement, éviter les débats, mais comment, justement, elle met ça en...
Le rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que ça soit elle qui mène la campagne par, à la fois, les thèmes, les idées, les punchlines, et que, surtout, elle impose son rythme médiatique. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le « là ». Il y a eu de la part du Rassemblement National, c'est assez vrai, y compris pour les porte-paroles, il y a ce truc soit de dérouler des éléments de langage comme des machines à faire des saucisses, ce qui n'est pas toujours agréable, et ou alors d'aller sur les plateaux et d'attendre les questions. Mais non, c'est pas ça. C'est la fameuse phrase de Georges Marchais. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. En vérité, il faut la politique, ça se la communication, ça se pense. Voilà, il faut essayer de séquencer, de mettre des thèmes en avant, de surprendre, d'être obligé d'obliger les autres à réagir sur vos propres thèmes, etc. Je vous dis, encore une fois, en face d'elle, à part Jean-Luc Mélenchon, elle ne va avoir quasiment que des primo-candidats et des gens qui ont besoin de se faire de la légitimité et de la notoriété. Le seul moyen pour eux de se faire de la notoriété et de la légitimité, c'est soit... s'attaquer à Jean-Luc Mélenchon, soit s'attaquer à Marine Le Pen. Je pense que ni l'un ni l'autre ne devrait, en tout cas je pense que Jean-Luc Mélenchon s'est réglé, il ne laissera pas l'accroche là-dessus. Qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon la plupart du temps? Vous avez vu ses campagnes, enfin, il faut les regarder, c'est intéressant quand même. Alors oui, il n'est pas arrivé au second tour, enfin, 400 000 voix la dernière fois, j'étais à la soirée électorale, je peux vous dire que jusqu'au bout de l'attente des chiffres, ça a été tendu quand même. 400 000 voix, donc Éric Zemmour faisait un tout petit peu mieux, Marine Le Pen n'était pas au second tour de l'élection présidentielle, souvenez-vous. Ah bon bref, vous m'avez compris. Il se trouve que là... Je serai l'équipe de communication et de stratégie de la campagne de Marine Le Pen, je ferai tout de mon côté. C'est-à-dire que même ma communication, je gérerai entièrement mes contenus, je gérerai entièrement les messages et je négocierai tout ce qui est passage télévisé. On sait, c'est un secret pour personne, tout se négocie dans les passages télévisés, dans les médias, etc. Vous voulez être celui qui fait l'interview? Ok, on parle là-dessus, on fait ça éventuellement sur mon procès, etc. Mais sinon, je viens pas. Je vais vous dire un truc, généralement, ça marche. Voilà. Et on sait très bien que par le passé, Jean-Luc Mélenchon l'a fait régulièrement, et d'autres personnes ont également fait ça.
Hier, finalement, l'événement, c'était son retour, en fait. Et ça a été en partie occulté par le tir de barrage des oppositions, notamment socialistes, écolos.
Même on voit, Gabriel Attal qui passe juste après Marine Le Pen sur TF1, Édouard Philippe qui passe sur France 2 pour le coup. C'est vrai enfin, que là pour le coup,
le passage d'Édouard Philippe sur France 2 aux 20h de France 2. J'ai fait quelques plateaux hier, personne n'a compris exactement ce qu'il foutait là, quoi. Il a gâché un 20h.
Il s'entendait
bien. Gabriel Attal aussi, d'une certaine façon.
Non, mais Gabriel Attal, c'est pire encore. C'est qu'il a fait un truc en duplex, dans un bureau, mal éclairé, avec sa tête de petit furet sous acide.
Ils sont en défense, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que les choses sont en train de s'ordonner autour d'elle.
Exactement. Et donc, ne pas donner de prise à ce que ses adversaires profitent de sa notoriété à elle pour se faire de la notoriété. Mais pour
ce que je veux dire,
le Édouard Philippe aux 20h de France 2, c'était mais lunaire, quoi. Il n'a rien dit, il était lui aussi dans une imitation de Jacques Chirac, un peu pathétique, et sur qu'a-t-il dit? Bah rien, vous retirez, vous... et en plus il a gâché un 20h. Enfin, je veux dire, vous êtes primo accédant à peut-être un second tour de l'élection présidentielle si on en suit les sondages. Mais enfin bon, les sondages à 9 mois. Ouais. Bon, bref, il n'en demeure pas moins que c'est le candidat le plus sérieux pour l'instant du bloc central. On verra comment il incarnera la campagne, parce que vous pouvez faire aussi un gadin total. Hein. Mmh. Vous lancez en campagne, c'est tout pourri, et finalement c'est un autre qui prend votre place dans votre famille politique. Ça peut arriver. Pour l'instant, je suis pas convaincu par ni la communication, ni même la façon d'incarner le candidat d'Édouard Philippe. Et puis Édouard Philippe, il se lance, je vous dis encore une fois, des 20h de France 2, il va pas en avoir 50 d'ici l'élection présidentielle. Je veux dire, c'est une occasion un peu loupée. Et en plus, lui-même est dans une position pas forcément...
Et puis, il faut dire, toute l'audience était évidemment concentrée sur TF1 pour le procès de Marine Le Pen. Aller sur France 2, à ce moment-là, c'est quand même un peu risqué. Mais justement, là, ce qui se passe, c'est que la particularité de cette élection, quand même, c'est que c'est à qui accédera au second tour face au RN. Ça, pour le coup, c'est quelque part, l'élection va se faire, chose qui était encore jamais arrivée, enfin, à part peut-être au second tour en 2002, mais... quand même sur un référendum pour ou contre Marine Le Pen, d'une certaine façon, enfin, c'est censé être ça le second tour.
Tout sauf Le Pen, comme il y a eu tout sauf Sarkozy, on voit qu'en général ça marche pas. C'est plutôt un réflexe défensif. Le problème de la droite aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à avoir un seul candidat.
Et ils en sont même de la gauche d'ailleurs. Mais...
Oui, mais la gauche pèse tout au plus 30% aujourd'hui, et puis sauf si... l'ex-président Hollande était un magicien, on les voit mal supplanter Jean-Luc Mélenchon. Mais à droite, ils ont un vrai problème, parce que ils sont en train de... dans mon livre, je parle de la secte de Waco. Ils foncent dans le mur en klaxonnant. La secte de Waco, c'est au Texas.
Les Davidiens.
Texas. Ils avaient préféré se faire sauter tous ensemble plutôt que de se rendre à la police. Et honnêtement, moi je trouve que Bruno Retailleau est plutôt courageux, mais il aura du mal quand même. Il n'a pas d'espace, quoi.
C'est une famille résiduelle avec un espace politique autour de 12%, et sur ces 12%, ils sont, je ne sais pas combien, à essayer de prendre. Et il faut qu'ils fassent avec 12% qui, d'un côté, se fait un peu croquer par Éric Zemmour ou Sarah Knafo. On verra d'ailleurs lequel des deux sera candidat, c'est intéressant, parce que là aussi c'est pas la même incarnation, c'est pas la même façon de faire la politique, c'est peut-être pas non plus la même dynamique, ça peut être assez intéressant. Ils font pas 25%, mais ils font un score qui peut être important au second tour.
En tout cas, elle est apparue, elle est sortie du bois, et aujourd'hui elle compte.
Oui, bien sûr, elle a complètement pris d'ailleurs l'espace qui aurait pu être celui de Marion Maréchal. Elle a complètement phagocyté cet espace politique. Donc Bruno Retailleau, d'un côté, il faut qu'il fasse avec éventuellement Renaissance, parce que sociologiquement, c'est parfois, sur certains segments, le même électorat. Et puis avec Édouard Philippe ou le Bloc Central, qui lui aussi peut prendre 1 ou 2%. Que lui reste-t-il à la fin? Moi, j'avais fait un pari, j'ai dit Bruno Retailleau, ça vaut 9. On verra ce que ça vaut.
Et Philippe finira combien?
Oh, je sais pas. Édouard Philippe, c'est compliqué. J'ai du mal avec Édouard Philippe. On l'annonce à 19. Je trouve que c'est très très cher payé.
Ça dépend, les sondages, certains le donnent plutôt à 16 ou à 17%. En tout cas, donc peut-être il nous reste seulement 3 minutes. Donc dernière question peut-être à chacun. Dans le fond, Marine Le Pen, on sait que c'est elle qui, effectivement, avait le plus de chances de maintenir son socle granitique. Qu'est-ce qui lui manque encore pour, justement, en une minute, qu'est-ce qui lui manque encore pour remporter cette campagne en 2027 maintenant ?
Alors, je ne sais pas quelles sont les nouvelles personnes qui sont arrivées ou qui vont arriver dans les semaines et mois qui vont venir. Ce qui a toujours fait défaut au Rassemblement National, c'est en termes de ressources humaines, d'abord. Il n'y a pas de communicants. Voilà, il n'y a pas de communicants. Il n'y a pas de stratège, de vrais stratèges. Quelqu'un qui est capable, hein, l'art d'allouer les ressources, qui est capable de... Voilà. Il n'y a pas de stratège, véritablement. Et puis, il manque... peut-être quelqu'un qui soit susceptible d'amener une valeur ajoutée avec l'international en faisant une diplomatie un peu plus fine que la fanfare des pompiers de Creusier.
Bah, je pense que la crédibilité économique reste le problème principal, même si l'international prend plus de place que par le passé. Par le passé, on disait l'international peut faire perdre, mais pas gagner. Donc oui, il faut qu'elle montre quand même aux Français que leurs économies ne vont pas partir en fumée. Et on est quand même aujourd'hui sous la contrainte d'une intervention prochaine, enfin à plus ou moins long terme, du Fonds monétaire international. C'est-à-dire que nous, on s'agite beaucoup, on évalue les scénarios politiques les uns les autres, etc. Mais il y a un rouleau compresseur qui est le poids de l'économie à l'aune de la mondialisation. Et je veux dire, on voit très bien que les candidats, elle d'ailleurs comme Édouard Philippe, on l'a vu dimanche dernier, font tout pour ne pas aborder les problèmes de front, ou alors ils le font de façon latérale. Lui parle de programme massif, mais bon, il n'a pas encore dit lequel, donc il s'est contenté d'un programme éducationnel massif. Bon, elle, c'est la même chose. Sur les retraites, elle ne pourra pas indéfiniment jouer la double ligne avec Jordan Bardella.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Arnaud Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Hubert Coudurier d'être resté jusqu'au bout finalement de cette heure d'entretien. Ça fait très plaisir d'animer cette matinale. Merci chers auditeurs. Je rappelle évidemment que Radio Courtoisie est une radio indépendante qui ne fonctionne que grâce à votre générosité, grâce à vos dons. Alors que l'été arrive, nous avons besoin de vous. Alors envoyez vos chèques au 61 boulevard Murat 75016 Paris ou faites-nous des dons sur soutenir.rc.fr. On compte sur vous, vraiment, c'est très important. Et puis, tout de suite, on va réécouter deux personnes qu'on a eues ce matin en rediffusion. Tout d'abord, Bruno Gollnisch qui nous raconte effectivement le premier jugement du procès. Et puis, également, une autre interview d'Arnaud Stéphane encore, qu'on avait interviewé il y a un mois et demi, justement, pour ce sujet.